Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi comme chaque lundi de donner le coup d'envoi de la semaine en votre compagnie sur RFI. Ça rime, c'est bien fait. Les sélections nationales et leurs défis à la une ce lundi. Certaines se battent pour l'Amérique, d'autres ont validé leur billet pour l'Allemagne. Je ne parle pas de géopolitique, c'est bien du football, de football qu'il s'agit. En Afrique, les éliminatoires du Mondial 2026 battent leur plein avec tout à l'heure des champions d'Afrique sur le terrain, des éléphants ivoiriens qui ont de moins en moins le droit à l'erreur. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Côte d'Ivoire-Gambie, c'est à 19h, temps universel. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui vous est cher. Vous allez suivre ça très attentivement.
Forcément, mais pas que. Pas que la Côte d'Ivoire quand même. Hein.
Mais bien sûr, parce que vous êtes, un amoureux du foot sur ce continent où une grande île rêve à une grande possibilité, celle de disputer sa première Coupe du Monde. La route est encore longue, mais Madagascar peut passer en tête de son groupe à l'occasion de la 6e journée de ses éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Il faudra battre le Ghana tout de même hein, pour continuer à y croire.
Exactement, et ça ne va pas vous échapper.
Ça ne va pas m'échapper, on va sûrement en parler tous ensemble.
Exactement. Enfin, la France a réussi une jolie remontada hier en quart de finale retour de la Ligue des Nations en Europe. Alors cette compétition, on ne sait pas trop si elle intéresse les gens ou pas. Dans ce genre de soirée, c'est sûr que ça intéresse. Dominique Sévrac était aux premières loges, le chanceux. Bonjour Dominique.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Quand je dis le chanceux, je mesure, je pèse mes mots. Équipe de France, PSG, vous avez une belle vie en ce moment.
Surtout
avec le Parisien.
Surtout avec les tirs au but.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Et c'est vrai.
Alors ne faites pas le fanfaron. Salut Diouf, le cerveau, Mathieu De Gueldre, le maestro, l'équipe de Radio Foot est au complet. C'est parti.
C'est quoi? Il vous sent pas?
Alors, coup du marteau ou coup de massue tout à l'heure pour les pachydermes. Sixième journée des éliminatoires Afrique de la Coupe du Monde 2026. Les éléphants de Côte d'Ivoire, bien sûr, qui n'ont pas tellement le droit de trébucher tout à l'heure face à la Gambie. Ce sera à Abidjan, dans le groupe F. Coup d'envoi 19h, temps universel. Alors, je précise qu'au moment où nous parlons, il est un peu plus de 16h10, temps universel, 16h13, très exactement, 17h13 à Paris. C'est une précision pour ceux qui écouteraient la rediffusion de Radio Foot sur RFI tout à l'heure à 21h10, temps universel. 16h13 TU, bientôt 14, ce qui signifie également que deux autres rencontres de ces éliminatoires Zone Afrique viennent de débuter. Enfin, il y en a même plus que deux, mais il y en a deux qui nous intéressent très très particulièrement. On commence par Centrafrique-Mali, c'est au Maroc, dans le cadre de la poule I. Deux équipes qui déçoivent après 5 sorties, c'est le Ghana et Madagascar, on en parlait tout à l'heure, qui dominent les débats dans leur groupe. Centrafrique-Mali, environ un quart d'heure de jeu, 0-0. 0-0 également entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Alors ça, c'est dans la poule A. Qu'est-ce qui se passe? 1-0?
Eh oui.
Ah oui, ça vient de bouger.
1-0 pour les étalons.
J'avais pas vu le but marqué pour les étalons. Vous faites bien de me... c'était même il y a quelques minutes.
C'était juste avant le coup d'envoi, je crois, de notre émission.
Exactement. Lassina Traoré, je crois, le buteur, la sixième minute. Voilà, je change un petit peu la donne. Alors ça, c'est la poule A. C'est en Guinée-Bissau, donc c'est pour l'instant un avantage à l'extérieur pour les étalons qui tentent de revenir à 2 points de l'Égypte qui est en tête du groupe. Alors peut-être un mot déjà sur cette rencontre, Franck Simon.
Pour les étalons?
Oui, un mot du côté des étalons. Pareil, c'est un peu un match qu'il ne faut pas rater là. On commence à avancer là, dans la deuxième phase, la phase décisive de ces éliminatoires, et chaque point va compter. Et peut-être que revenir à 2 points de l'Égypte là sur la sixième journée, ça peut compter.
Ouais, ils ont l'habitude en fait de ces, ils ont pris l'habitude en fait de bien avancer sur ces journées internationales à 2 matchs. Les Burkinabés, il y a un groupe où il y a aussi des entrants. Il y a eu des entrants puisque Brahma Traoré là, on le voit, fait un petit peu tourner, notamment dans le secteur offensif. Il se passe dans son 11 de départ d'Issoufou Dayo quand même, ce qui veut dire qu'il a un petit peu de marge en laissant de côté un tel joueur. Et pour l'instant, voilà, le Burkina Faso, ils sont dans la lignée de ce qu'ils nous proposent depuis quelques temps déjà. C'est solide. Ils savent qu'en face, il y a un adversaire aussi qui va s'accrocher, qui est une équipe qui compte beaucoup, beaucoup. C'est quasiment une équipe que d'expatriés. Hein. Donc, il faut faire une diff rapidement.
Alors, le Burkina Faso, pour précision, qui, en cas de succès en Guinée-Bissau, reviendrait à 2 points. Provisoirement de l'Égypte, parce que l'Égypte ne compte que 5 rencontres. C'est la 6e pour le Burkina Faso. Il y a quoi ? Il y a 10 journées dans cette phase de groupe des éliminatoires. Peut-être le processus. On a 9 poules.
Les gagnants de chaque poule sont directement qualifiés. 9 qualifiés directement. Les 4 meilleurs deuxièmes jouent un tour de barrage, une sorte de mini-tournoi, dont le vainqueur jouera un barrage intercontinental contre, je crois, une équipe asiatique ou océanienne, si je ne me trompe pas. Et le vainqueur de ce barrage intercontinental gagnera une place en Coupe du Monde. Donc, c'est un long marathon pour ces pays-là. Mais le Burkina Faso, si on se fie aux chiffres après 5 journées, est pour l'instant dans les 4 meilleurs deuxièmes.
Donc, il y a un enjeu par rapport à ça.
Donc, s'il continue à engranger des points, même si l'Égypte me paraît sans doute, à défaut d'être toujours convaincante, me paraît au-dessus, puisqu'elle n'a presque rien perdu. C'est bien de s'accrocher parce qu'il y a de l'enjeu, même si on n'est pas premier.
Ouais. Et voilà, puis Burkina a fait match nul à l'aller. Hein,
oui, donc c'est pas perdu totalement. Mais c'est un groupe comme celui dont on va parler après entre Gabon et Côte d'Ivoire, où il y a, à mon avis, sans doute un meilleur deuxième
qui peut se dégager
à la clé. Là-dedans. Ouais.
On rappelle, donc, première Coupe du Monde à 48 équipes. Donc, on est sur le principe du 9 plus 1 pour l'Afrique. 9 nations sûres qui iront en Amérique du Nord et peut-être une dixième en fonction de ce qui se passera. Ça vous fait plaisir. Je sais que le romantique du football que vous êtes, Dominique Sévra, quand vous entendez parler comme ça de ces mini-tournois qualificatifs entre les meilleurs deuxièmes, puis un barrage intercontinental, ça vous plaît ? On en est où pour l'équipe de France dans le cadre de ces éliminatoires d'ailleurs ? Parce que là, il y a la Ligue des Nations. Donc,
oui, ils ont gagné le fait d'être dans un groupe à 4. Ils perdent un adversaire au départ. Et donc, ils seront dans le groupe de l'Ukraine, de l'Azerbaïdjan, de l'Azerbaïdjan, et il y en a un dernier.
Il y en a un dernier qu'on va retrouver. C'est trop facile pour les auditeurs si on leur donne directement, donc on va les laisser un peu travailler sur ce dossier-là. Piste, là, ouais. Mais ce qui nous prouve bien, d'ailleurs, blague à part, que voilà, avec ces éliminatoires, ces Ligues des Nations, le calendrier international
n'est
pas toujours très facile à suivre.
C'est pas facile à suivre, et puis par exemple, là, le fait que la France ait gagné ce match dont on parlera plus tard contre les Croates en 2 manches, ça change le calendrier, c'est-à-dire ça rajoute des dates au mois de juin qui n'étaient pas prévues. Donc en fait, par rapport à l'époque de ma jeunesse, de la nôtre, c'était plus simple. Il y avait les éliminatoires de l'Euro, les éliminatoires de la Coupe du Monde et des matchs amicaux. Maintenant, c'est un peu plus un calendrier à géométrie un peu plus variable et parfois avec des dates en plus qui font que les joueurs jouent parfois 12 matchs par an avec leur équipe nationale, ce qui parfois ils jouaient en 3 ans à notre époque.
Ouais, et chez les femmes, on a en Afrique, je crois, le cas encore plus bizarre d'éliminatoire pour la CAN, alors qu'on n'a pas joué la CAN qui arrive avant. C'est-à-dire on se qualifie déjà pour la CAN
suivante
avant de disputer celle la précédente. Bon, voyez, on s'y perd un petit peu dans les explications. Donc Ukraine, Islande, Azerbaïdjan, effectivement, pour l'équipe de France dans le cadre de ces éliminatoires. Coupe du Monde 2026, je reviens à l'Afrique, Centrafrique, Mali, 0-0. Donc ça, c'est dans la poule I, celle du Ghana et Madagascar, dont on parle dans un instant. Grosse déception, Centrafrique et Mali, Franck Simon. Parce que pour l'instant, aucun des deux ne serait-ce que deuxième de sa poule.
Oui, Centrafrique, depuis le départ, et on en a parlé avec Pat la semaine dernière, hein, le départ de Raoul Savoie, on a cassé une dynamique. Et depuis, c'est vrai que c'est une équipe qui encaisse beaucoup, beaucoup trop de buts, qui n'en marque que peu. Une équipe, je crois que c'est toi qui en parlais, Pat, hein, il y a un an ou deux en arrière, contre certains adversaires, ils étaient en capacité de gagner.
Oui.
On parlait de Madagascar, ils avaient battu Madagascar.
Ils avaient battu 2 fois.
Voilà, aujourd'hui, Centrafrique, la Centrafrique est dernière.
C'est surtout le Mali, la déception.
La déception.
Je les ai mis sur le même plan, mais c'est le Mali qui descend.
Le Mali, c'est surtout un retard à l'allumage.
Le contenu du
match de la 5e journée là, a été bon contre les Comores. Hein. Ils ont vraiment tenu leur rang, ils se sont fait respecter, ils ont été efficaces, ils ont envoyé du jeu.
C'est un sans faute.
C'était un très bon match du Mali. Donc, je ne serais pas totalement désespéré pour la suite. Ils peuvent, à mon avis, encore retourner la situation. Pour la Centrafrique, oui, c'est le... Alors, effectivement, Raoul Savoie, il a été remercié suite à deux gros revers contre le Maroc. Mais il a essayé de jouer au foot, c'est plutôt à son honneur. Il était évident que la Centrafrique n'allait pas battre le Maroc. Donc, il s'est dit, autant essayer de jouer, ça n'a pas marché. On lui en a voulu parce qu'on a considéré que ça avait donné lieu à une humiliation, finalement, de cette équipe. Ah, mais maintenant, ils ne sont pas plus avancés que ça.
Dur,
et puis, j'ai trouvé que les choix là, du sélectionneur de Nzaï Amissi étaient bizarres. Enfin, il y a des attaquants qui étaient titulaires qui ne sont même pas dans la liste, comme Baboula ou Ngamanda. Enfin, c'est un peu particulier. Il y a des joueurs qui n'ont aucun temps de jeu qui sont dans la liste. J'ai un peu de mal à saisir, en fait.
Mais bon, après, alors, je rappelle quand même...
Il saura sûrement m'expliquer ou nous expliquer.
On va avancer. Je rappelle les scores, donc, après 20 minutes de jeu, à 17h21, heure de Paris. Là, encore une précision pour ceux qui écouteraient la rediffusion du soir. 0-0 Centrafrique-Mali et 1-0 pour le Burkina en Guinée-Bissau. On revient à Côte d'Ivoire-Gambie. Donc, c'est tout à l'heure, 19h TU, dans la poule F. Les éléphants deuxième à deux points d'un Gabon qui domine. Et c'est une petite surprise. Les débats, après son succès donc pour le compte de la sixième journée, 2-1 au Kenya hier grâce à un doublé d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Alors d'abord, parlons des éléphants. Est-ce que vous les voyez reprendre cette première place en cas de succès tout à l'heure face à la Gambie? Et est-ce que ça vous étonne de ne pas les voir se promener, les champions d'Afrique, dans leur groupe? On écoute Emers Faye, le sélectionneur, puis je vous donne la parole juste après.
Que ce soit individuellement ou collectivement, on doit faire mieux. Être capable de ressortir le ballon quand l'adversaire vient nous presser. Être capable de partir de derrière, amener le ballon jusqu'au but adverse pour créer des opportunités. Mais je pense que globalement, techniquement, on doit faire beaucoup mieux et on doit être peut-être plus mobile. Quelle que soit la manière, le plus important, c'est de gagner. On est dans un championnat où, on le sait, c'est une qualification, une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire n'a pas participé depuis 10 ans. Donc, sur 10 matchs, on sait qu'on va pas toujours bien jouer. On sait qu'on va pas toujours avoir la maîtrise. Donc, le plus important, c'est de gagner, quelle que soit la forme du jour et quelle que soit la manière.
Et Emers Faye, qui a pas quitté finalement les habits du pompier de service, mais de celui qui a pris l'équipe, qui l'a remobilisé en pleine canne pour l'amener au sacre, il est sur un discours mobilisateur de victoire, pragmatique. Il n'est pas là pour construire une identité de jeu. C'est un peu le Deschamps ivoirien dans ses déclarations, Emers Faye.
C'est peut-être un peu aussi ce qui lui est reproché localement, hein, par l'opinion publique, les médias en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas forcément satisfaits des dernières prestations, et en particulier cette courte victoire contre le Burundi. Franchement, il y avait des absents, on le savait, des garçons comme Seko Fofana qui ne fait pas partie du groupe, on a Ndika qui est malade, qui est reparti. Concrètement, cette équipe, effectivement, elle n'a pas été très séduisante, hein, contre les Intamba, les hirondelles du Burundi. On a eu la chance d'avoir en revanche un...
Je ne l'ai pas précisé, mais il y a tout de même un succès, 1-0.
Oui, avec ce but,
premier
but en équipe nationale d'Evan Guessant. Je pense que ça t'a fait plaisir.
Ça m'a fait plaisir.
Et la prestation
aussi. Ce n'est pas le seul Niçois qui a brillé. Il y a eu des passes décisives de Boudaoui et d'Abdi avec leurs équipes respectives. Et il y a le retour d'Allaire aussi, qui a quand même fait du bien dans le secteur offensif et qui a été passeur sur le but.
Qui n'a pas donné sa part
au chien. Mais surtout, j'ai été déçu, moi, par le milieu de terrain. C'est quand même des... Sur le papier, c'est une équipe qui doit vraiment prendre l'ascendant sur les Intamba. Et qui ne l'a pas fait, qui a été brouillonne, qui a été un peu molle, un peu... Ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'envie et tout ça. Donc, c'était un peu... Ils étaient sur deux cylindres.
C'est vrai que ça fait 10 ans, ça fait même plus maintenant. 2014, la dernière participation de la Côte d'Ivoire à une Coupe du Monde, après trois mondiaux.
Voilà, trois participations de suite. Là, tout de même, s'il faut un peu dédramatiser, si on prend les chiffres, c'est 13 buts marqués, 0 encaissé sur les 5 premières journées.
La solidité, bien sûr.
Ce qui est respectable, ce qui, à mon avis, les met à l'abri d'un accident contre la Gambie. Mais en revanche, je serais extrêmement méfiant à leur place si les choses en restent là, que les équipes continuent à engranger, parce qu'il y a un déplacement au Gabon.
C'est la 8e journée.
Je serais extrêmement méfiant parce que le Gabon ne lâche rien. Le Gabon est plus séduisant dans le jeu, sur ce que j'ai vu récemment, que la Côte d'Ivoire.
Efficace.
Et puis c'est une équipe peut-être plus soudée. Il y a moins de joueurs, mais c'est un groupe vraiment bien soudé, avec un Mouyouma sur le banc qui a qui a trouvé les, je pense, les bons.
Et puis
il a
fallu un an.
Voilà. Ouais. Mais là, ça tourne bien. Hein.
Et ouais, puis ouais. Aubameyang, enfin doublé contre le Kenya hier.
On a vu la Croatie avec beaucoup de trentenaires dans titulaires et qui tenaient leur rang, notamment au match aller. Le Gabon, c'est un petit peu ça. Hein. Gaylor Kanga, c'est la trentaine bien sonnée. Aubameyang aussi. Et Kwele Manga. Bouanga, il est pas loin de 30 ans. Lemina aussi.
N'oublie pas Biyogo Poko
aussi qui est revenu. Donc c'est des vieux briscards, mais je pense que sur des matchs un peu commando comme ça, ça les aide. Hein. Après, sur une phase finale avec des matchs rapprochés, je sais pas, mais là, ça les aide.
Il y a un vrai rêve, il y a une politique, je pense au niveau du pays, tout simplement. Envie de porter cette équipe, de l'envoyer en Coupe du Monde, de les aider.
Oui, parce que c'est une bonne génération qui, à chaque fois, a raté de peu les grands rendez-vous qu'elle a eus. Là, ils veulent pas le rater.
Dominique Sévrac, vous qui suivez d'un peu plus loin que nos amis, mais vous serez au premier plan. D'ici quelques minutes dans Radio Foot, vous suivez d'un peu plus loin le foot africain, ne pas voir les champions d'Afrique ivoiriens en Coupe du Monde, ça vous paraîtrait une aberration ou pas?
Ah oui, une aberration, surtout au moment où elle s'élargit. C'est-à-dire que vous allez avoir plus
de tickets. Quoi.
De tickets, et si en plus le champion d'Afrique n'est pas là, la Coupe du Monde, c'est à la fois le mélange des cultures, c'est le mélange des footballs, et puis c'est la meilleure équipe européenne.
Mais t'as des groupes, t'as drôle de groupes, tu sais aussi. Hein. Oui. Si tu jettes un coup d'œil, tu verras. La Tunisie, ils sont pas trop embêtés, la Tunisie. En revanche, la Côte d'Ivoire était
parce
que Gabon,
en plus, voilà, pour la Tunisie, disons-le, la Guinée équatoriale et la Namibie ont fait match nul cet après-midi. Donc les deux meilleurs adversaires se neutralisent, donc ça les aide en fait.
Mathieu De Gaulle qui se glisse avec habilité dans son ancienne peau, celle du maestro Salerno, me rappelle qu'après tout, en 2021, on a un champion d'Europe qui ne va pas à la Coupe du Monde de 2022. C'est donc ça peut arriver à l'échelle du vieux continent, d'Italie en l'occurrence.
Et vous trouvez que c'était une bonne Coupe du Monde avec ça? Non, c'était une super
Coupe. Non, c'est dommage, c'est dommage, oui, bien sûr.
C'est
oui.
Dommage parce que c'est
on aurait voulu voir le gratin. Donc,
j'aurais voulu voir les derniers feux de Marco Verratti.
Vous voulez voir Donnarumma en Coupe du Monde?
On l'a vu hier, Donnarumma.
Ne gâchez pas tout. Entre guillemets, on se fait Donnarumma tout à l'heure dans Radio Foot. Juste avant, un point donc sur les scores des matchs en cours qui nous intéressent. 1-0 pour le Burkina face à la Guinée-Bissau, puis 0-0 entre le Mali et la Centrafrique. Ça se passe du côté du Maroc dans un groupe qui est dominé pour l'instant par le Ghana et Madagascar. Tiens.
And they're back level. And it is the captain, Ryan Ravelison, who has equalised for Madagascar. It's another good-looking ball, and it's a third for Madagascar early in this second half. Leading the counter, a chance for a fourth, and it is going to be a fourth. And Madagascar have made the 3 points safe now.
Dans la poule I, Madagascar se prend à rêver. Il y a quelques jours, les Baréas s'imposaient 4-1 au Maroc face à la Centrafrique. C'est faux dont nous parlions il y a quelques instants. Et ce soir, c'est face au leader de la poule que les Malgaches vont tenter de grappiller encore une place.
Au Maroc.
Une place en tête, dans un match effectivement qui se joue lui aussi au Maroc. Parce que c'était pas assez confus. Il faut aussi que ce soit confus sur les endroits où on joue à l'extérieur à domicile. Dans les deux cas, c'est au Maroc pour Madagascar. On serait un peu plus de la moitié du chemin. Ça nous ferait, en cas de succès, donc Mada en tête de son groupe, la possibilité d'une grande île en Coupe du Monde. Est-ce que vous la percevez, vous la visualisez? Ça vous paraît crédible, Patrick Géant?
Oui, ça me paraît crédible. Après, je pense que le Ghana, qui est très remonté après avoir raté la qualification pour la CAN, ce qui, en général, n'arrive jamais au Ghana, même un mauvais Ghana. Là, je pense qu'ils sont ils sont en mission dans ce groupe, hein, les Ghanéens. Otto Addo est resté. C'est lui qui avait déjà dirigé l'équipe à la dernière Coupe du Monde où le Ghana était présent. Il avait plutôt fait bonne figure, je trouve.
On en attendait pas grand-chose, on va pas se mentir.
Mais ils n'avaient pas été si pires. Ils n'avaient pas été si mal. Ils avaient gagné un match. Ils avaient plutôt, même contre le Portugal, fait un bon match aussi. Donc, je me méfierais à la place des Malgaches. Je me méfierais de deux choses. D'abord, du Ghana, bon, on l'a dit. Et ensuite, peut-être d'une légère euphorie qui a pu gagner les troupes après cette belle victoire contre les Centrafricains. Attention, là, c'est un autre calibre d'adversaire. C'est une équipe en confiance qui a déroulé lors de la précédente journée. Donc, méfiance, voilà, pour les Malgaches.
Madagascar, vous les voyez quand même réaliser, être sur le chemin de quelque chose. Eux qui avaient, on s'en souvient, atteint les quarts de finale de manière brillante en 2019 lors de la CAN, qui n'ont pas vraiment transformé l'essai, mais qui ont quand même, et ça c'est pas rien à l'échelle du football malgache, une équipe qui est là et qui est crédible depuis plusieurs années, notamment depuis cet exploit égyptien.
Je vous avouerai que je remonte pas si loin, je remonte à quelques mois en arrière où, et on en parlait aussi jeudi, on sentait un souci, pas dans le jeu, parce qu'il proposait déjà du jeu avec le sélectionneur précédent, puis l'intérimaire Gilles Hugon qui a été là. Mais ça marquait pas. Ça marquait pas. C'était sympa à voir jouer. Tu te dis, bah voilà, ils peuvent battre la Tunisie, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Mais ils n'y arrivaient pas. L'arrivée de Corentin Martins, il propose autre chose. Ils étaient sur un chemin. Là, il les a remis sur la route. Effectivement, s'ils viennent à faire un gros résultat contre le Ghana, ça ressemblera à l'autoroute. Parce que c'est un adversaire mondialiste, un habitué de ces compétitions-là. Parce que, effectivement, il y a là aussi, il y a une envie dans le football malgache d'exister. Ils ont existé en Coupe d'Afrique des Nations et ça nous avait bien plu. Ensuite, ils ont un peu disparu. Ils sont de retour et ils peuvent épingler un adversaire de qualité, un adversaire qui les a battus au match aller.
C'est ça, c'est leur seule défaite d'ailleurs.
Ouais, donc effectivement, je suis un peu de ton avis. C'est compliqué.
Surtout que le Ghana est un surcroît de motivation après l'échec.
Ils n'y seront pas, donc voilà,
ils ont envie de la CAN, qui est plutôt en général leur compétition. Et là, ils ont tout remis sur les éliminatoires Coupe du Monde.
En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une espèce de dichotomie entre les gros favoris et des pays qu'on attend moins. Et il y a vraiment une espèce de match dans ces éliminatoires Coupe du Monde des petits, entre guillemets, qui jouent crânement leur
chance.
C'est
aussi le cas du Mozambique dans le groupe de l'Algérie, parce que l'Algérie a laissé des points en route contre la Guinée le printemps dernier, et le Mozambique en profite et tient tête au point à l'Algérie. Donc là aussi, une surprise est possible si ça se passe mal pour les Fennecs demain, ce qui est... Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais.
Non plus.
Bon, on continue à parler dans ces prochains jours, évidemment, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique, dans Radio Foot sur RFI. En attendant, vous le savez,
c'est le moment où
les auditeurs s'expriment. Attendez, musicale, c'est après. L'autre rendez-vous du lundi, ce sont ces auditeurs qui nous laissent quelques petits messages, quelques vocaux sur WhatsApp. Aujourd'hui, on les a simplement sollicités pour qu'ils livrent quelques mots d'encouragement à leur pays dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est compilé par Salut Diouf et Mathieu Degalre.
Salut Radio Foot International, c'est Dr Claude Banimba depuis la RDC à Lubumbashi. Je lance un message d'encouragement à nos léopards de la RDC qui seront reçus demain mardi par la sélection mauritanienne. Toute la nation entière est derrière vous, Bendel et Kouyatel, les îles léopards.
Salut RFI, moi c'est Franck depuis la Côte d'Ivoire. C'est pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire qui jouent aujourd'hui, c'est lundi 24 mars, au stade Félix Houphouët-Boigny. Allez les éléphants, comme on dit, découragement n'est pas ivoirien. Vive la Côte d'Ivoire, c'est nous les champions d'Afrique. Allez les éléphants.
Bonjour Radio Foot, c'est Ibrahim Mamba depuis Kinshasa. Je souhaite bien la victoire de Léopards de la RDC face au Mouragitoun de la Mauritanie, parce qu'ils savent bien rugir devant n'importe quelle nation. Ciao.
Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo depuis Mbour au Sénégal. Il faut gagner ce soir, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire. Je les souhaite de remporter ce match parce que c'est important de remporter ces trois points-là parce qu'ils sont des champions d'Afrique, il faut le faire. Bonne chance à eux.
Vous trouvez qu'il était bien.
Tous les lundis, les auditeurs s'expriment et normalement, quand les consultants sont disciplinés, ils les écoutent, ils sont pas en train de bavarder pendant que nos auditeurs. voilà. Et puis chaque lundi, vous pouvez vous joindre à ce petit mix. Vous nous envoyez simplement une note vocale sur WhatsApp. Le numéro, vous le retrouvez sur la page Facebook de Radio Foot International. Vous l'attendiez, vous la réclamiez, mon cher Patrick Juillard, la petite pause.
Ah. Qu'est-ce que
musicale, la douceur musicale, c'est pas vraiment une pause parce que ça fait partie complètement du flow Radio Foot le lundi, mais pas que. MC Solar, tenez,
un tchadien.
C'est comment dire vintage, comme on dit, c'est un peu à l'ancienne, ça nous fait
c'est
plaisir
agréable.
De le retrouver le Claude. MC Solar avec Joker, Benjamin B sur RFI.
Cola gogo. Paul Dance et gogo. Pink notes dans la poche, wesh à mon gogo. D'émergence intime dans Jado au Togo. Logo Croco Crocs, flow anti-bobo. Un petit clic-clic, puis des tas de bratatata. Ça pète sur patapata, les roulements font taratata. Dans le club, c'est la cata, le choix, plata au plata. Ne parle pas d'eau plate, il la jette dans le titi caca. Viens, bouge de là, c'est mieux. Ici, l'ambiance est trop sérieuse. Je vais voir ton côté mystérieux. Comment tu perds, tu postères. Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des Benjamin Franklin, des billets violets. Vas-y, pense pour moi, baby. Pense pour moi, baby. Partons avant la fin, club est rempli de pistolets. J'ai 100 mètres carrés dans lequel on peut s'isoler. Vas-y, pense pour moi, baby. Ce qu'on recherche c'est le feng shui. Rolex, sushi, fric, oui, bien. Comme le veut la tradition, salé sera l'addition. À cause de notre addiction au charme à la séduction. J'ai de la bulle dans mon blanc, le tequila dans mon cap. Aucun de nous deux ce soir ne mérite de rentrer sale. Viens on se casse de l'alcool, on s'égare dans le cap. Bounce, 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 comme moi jamais je suis fucked up. Viens bouge de là c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vais voir ton côté mystérieux. Comment tu marches au postérieur. On se casse de là, c'est mieux. Ici l'ambiance est trop sérieuse. Je vais voir ton côté mystérieux. Comment tu bouges au postérieur. Je me sens comme Benjamin Biolay. J'ai des Benjamin Franklin, des billets violets. Vas-y, pense pour moi, baby. Pense pour moi, baby. Partons avant la fin, le club est rempli de pistolets.
Il parle sur les messages des auditeurs, il parle sur la musique.
C'est
la
passion, monsieur. Des noms,
nos consultants, Dominique Sévrac, Patrick Juillard et Franck Simon, alors que
le maître
MC Solar était sur RFI, Benjamin B, un featuring avec Joker, MC Solar qui est un petit peu, on va pas se mentir, le Didier Deschamps du rap français. Il est là depuis à peu près toujours. Quelle transition, mesdames et messieurs.
Idéale de mettre de l'électricité dans cette soirée et de fêter sa sixième sélection. Michael Olise récompensé avec Mbappé, avec Olise maintenant le pied droit. Oui, 80e minute et pour l'instant ça fait une prolongation pour l'équipe de France. Mais oui, Mike, c'est Mike. Et premier échec dans cette séance de tir au but.
Allez, pour une demi-finale.
Mais oui,
ouais,
mais oui. C'est terminé. Au bout du bout de la nuit.
Une soirée qui rappellerait presque le France-Ukraine de 2013. À l'époque, les Bleus avaient déjà remonté une défaite de 0 à l'aller pour valider leur billet pour le Brésil et la Coupe du Monde 2014. Et même le billet pour... un peu plus quand on connaît la suite de l'histoire. Hier, ce n'était qu'un quart de finale retour de Ligue des Nations. Mais il fallait à nouveau remonter. 1-2-0 pris à l'aller. Contrat rempli. Avec un passage par les tirs au but cette fois. On va particulièrement féliciter un petit nouveau en bleu, Désiré Doué. Il a tiré. Il a eu le courage de se présenter face au gardien croate et de transformer son pénalty.
C'était un match avec beaucoup de suspense, on va dire. Il fallait remonter un score de 2-0. On a su le faire durant le match. Les supporters ont mis énormément d'ambiance et on les remercie. Ça a été top. Ils nous ont poussé du début jusqu'à la fin. Quand il y a deux buts à rattraper, forcément, il faut aller les marquer. On ne peut pas être attentif sur le terrain. Et je pense qu'on a essayé de jouer un football qui est le nôtre et on a réussi à le faire ce soir et on ramène la qualification.
Le pauvre Désiré Doué, on s'était déjà un petit peu moqué de sa langue de bois et de son discours extrêmement formaté la semaine dernière après le Classico. Là, il enchaîne. Il est déjà très régulier dans la communication un peu vide, un peu robinet d'eau tiède d'après match.
Si vous voulez, moi je préfère
sur le terrain,
joueur,
c'est autre chose. Il est beaucoup plus créatif.
Je préfère un joueur qui est robinet d'eau tiède en conf et brillant sur le terrain que le contraire. Hein, parce qu'il y en a un de... Thomas Meunier, c'est le contraire. Hein. Il est exceptionnel en conf, mais sur le terrain, il est plutôt robinet d'eau tiède.
Hugo, vous êtes jeune avec votre casquette, mais lui, il a 19 ans. Il a 19 ans.
Est-ce que
pas.
Je parlais comme ça? Est-ce que j'aurais osé me présenter face aux médias à 19 ans? C'est pas sûr.
J'aurais été tétanisé à 19 ans de parler devant des gens comme vous.
Petite parenthèse, l'égalisation de la Guinée-Bissau.
Ouais, un but de Zidane Banjaki.
Voilà, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique. On vient en Europe. Et la Ligue des Nations, je précise une nouvelle fois qu'il est 17h40 à Paris. Donc ça, si vous nous écoutez pour la rediffusion, bon, les choses auront peut-être changé. C'est un peu le jeu de l'actualité qui veut ça. On referme la parenthèse Afrique, retour en Europe, la Ligue des Nations, Désiré Doué. Effectivement, ce qu'il raconte en interview d'après-match ne nous intéresse pas tant que ça. Dominique Sebrac, et d'ailleurs il fait partie de ces joueurs-là qui sont en train peut-être de créer un nouvel élan dans cette équipe de France. Je parlais de France-Ukraine qui avait été fondateur en 2013
pour Didier Deschamps.
Là ça peut peut-être être fondateur pour la fin de Didier Deschamps et peut-être une nouvelle équipe de France avec de jeunes joueurs.
Oui, parce qu'on sait qu'à la Coupe du Monde 2026, on n'imagine pas que la France ne sera pas qualifiée. Ils vont y aller, les Bleus, avec des joueurs très très jeunes. C'est la génération Mbappé, mais Mbappé, il a déjà 26 ans. Voilà. Donc,
il aura 28 ans.
Ouais. Donc, il va emmener derrière avec lui toute une génération qui sera incarnée par donc Michael Olise, qui a fait un très très bon match hier, le joueur du Bayern. Désiré Doué, qui est devenu international hier à la 66e minute, qui a fait une très très bonne rentrée, qui a inscrit son tir au but comme il avait inscrit celui à Liverpool, le dernier, celui de la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. À 19 ans, après 6 mois, 7 mois avec le Paris Saint-Germain, quand on vient de Rennes, c'est quand même un changement de dimension. C'est-à-dire qu'on... Et pareil, Olise, il passe de l'Angleterre à un club anonyme au Bayern Munich, un des plus grands clubs du monde. Il prend la mesure du club tout de suite, il prend le maillot, il endosse les responsabilités, il est bon.
Et il a inscrit le premier coup franc direct en compétition officielle depuis 2007.
Depuis Jérôme Rotten, donc ça aussi c'est un peu vintage. Et donc il y a une jeunesse comme ça qui pousse. On sait que aussi derrière Magnès Akliouche, Ryan Cherki, qui sont pas bien vieux, seront sans doute là aussi à la Coupe du Monde selon toute vraisemblance. Donc c'est assez, il y a Barcola qui est installé dans le décor, mais il y a que 22 ans. Donc vous voyez quand même qu'il y a c'est...
Et Dembélé qui est pas non plus un
bah non,
un vieux
il a
bonhomme.
Que 27 ans.
Alors là vous citez des noms, mais en termes de jeu hier, on a vu un allant, une envie d'enflammer le Stade de France et d'enflammer le football. On ne voit pas souvent. Avec Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.
Parce que
Didier Deschamps ne fait pas souvent des choix novateurs. Là, il était dos au mur. Il a bien compris que s'il remettait la même équipe que à Split, il allait dans le mur. Il a essayé autre chose. Et c'est à la fois sa qualité, parce que dans l'adversité, dans la difficulté, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question et de changer ses choix. Mais on a souvent envie de lui dire, mais pourquoi tu l'as pas fait avant, Didier? Parce que Olise, ça fait longtemps que les gens disent qu'il a un truc en plus, que les autres n'ont pas, qu'il a des qualités, notamment sur les coups de pied arrêtés, qu'il a une précision pour résumer les choses que
et
les
puis
autres
hier,
n'ont
pas. Hier, il a vraiment joué comme un meneur
mais
de
oui,
jeu,
il a
ce qui réussit bien historiquement l'équipe de France.
La France a toujours gagné tous ses titres internationaux avec un grand meneur de jeu, que ça soit Platini, Zidane ou Griezmann. Lui, c'est peut-être le nouveau. Et c'est peut-être, d'ailleurs, Dominique, tu as parlé d'Akliouche. Ça, c'est peut-être un problème pour Akliouche, parce que Akliouche,
c'est
un peu Olise en moins bien, quoi.
Le talent, c'est jamais un problème, Patrick.
Je reviens quelque part à ma question. Il a fait des choix forts. Il part avec une nouvelle génération. Il a mis beaucoup d'offensifs hier.
4.
Est-ce que, tout comme le France-Ukraine de 2013 avait permis à Deschamps de trouver vraiment sa formule pour vraiment lancer son aventure à la tête de l'équipe de France, là, est-ce que ce France-Croatie va être fondateur pour lancer, alors, non pas son aventure, mais plutôt la conclusion de l'aventure,
Dominique Sebrac? Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai peur que, par exemple, ça sera France-Espagne le 5 juin.
C'était un peu le sens de ma question.
Je pense qu'il
va jouer avec 4 offensifs contre la Roue.
Je ne suis pas sûr, mais moi j'ai envie de lui dire, parce que je sais qu'il peut nous écouter, il écoute tout, c'est que de toute façon, la Ligue des Nations, ce n'est pas grave de la perdre. Il n'y a pas de danger à un an de la Coupe du Monde s'il perd contre l'Espagne, qui est considérée comme la meilleure équipe d'Europe, voire
personne
du monde.
Personne ne lui reprochera.
Donc allons-y, joue avec tes 4, je me permets de le tutoyer, joue avec tes 4 offensifs, remets Michael Olise. Remets Mbappé, Dembélé et puis Barcola ou Doué ou qui tu veux, mais ça coûte rien. Tu seras face à Olmo, tu seras face à Lamine Yamal, tu seras face à des très grands joueurs. Donc jouons au foot. La Croatie a formidablement défendu. J'ai trouvé qu'ils étaient courageux. Bon, ils sont tous un peu vieillissants, mais ils avaient été formidables au match aller.
Un très grand Livakovic,
ouais, le gardien de but qui a fait vraiment des parades intéressantes. Mais jouons, c'est pas grave.
Et vous avez senti que le public, en plus, avait apprécié, non?
Oui, après, j'étais à la fameuse soirée dont vous parlez, Hugo, de l'Ukraine. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même électricité dans l'air, c'est pas le même enjeu.
Non, mais on sait qu'il y a un petit désamour. On compare notamment avec le rugby, le Stade de France qui chavire un peu plus quand c'est le rugby. Il y a plus d'audience à la télé quand c'est les Bleus en rugby. Bah, est-ce que hier, il n'y a pas eu un début de reconnexion?
J'espère. En tout cas, cette jeunesse-là, ce scénario, ce suspense, le dénouement font qu'on peut penser qu'ils vont grignoter. Vous savez, en général, vous montez par l'escalier et vous descendez par l'ascenseur en termes d'image. C'est très, très compliqué de reconquérir l'opinion et les cœurs. Ce petit grain de sable-là, ce petit truc sympa, peut permettre de nourrir l'amour entre le public et les Bleus.
Franck Simon, vous avez apprécié ces Français. Ce n'était qu'un quart de finale retour de Ligue des Nations, mais... peut-être que l'équipe de France n'avait pas fait vibrer son public depuis très longtemps à ce niveau-là.
Certainement. Donc effectivement, j'ai fait partie de ceux qui ont vibré, des très nombreux qui ont vibré. Je n'étais pas au stade, mais devant mon écran, et ça a été un moment fort. Il y avait quand même, on se dit comment il y a une bonne heure où en fait on se dit à un moment donné ils vont bien finir par craquer ces Croates. Tu disais qu'ils défendaient bien, et c'est vrai qu'ils ont défendu excellemment bien. Mais après, c'est le talent. Et la France a beaucoup de talent et on aime les voir ensemble. Et là, je pense que le public a été conquis par ça.
La France a beaucoup de talent qui ne joue pas toujours, mais hier, c'était le cas. Deschamps avait osé. Et finalement, le match est débloqué sur un coup franc direct. Et vous l'avez dit, Hugo, ça faisait presque 20 ans que la France ne l'avait plus fait.
Ça, c'est fou comme statistique.
Et ça montre le talent unique de ce jeune, Olise.
Connaissait déjà, on l'avait un peu vu l'été dernier.
Quand il avait eu un peu de temps de jeu en équipe de France, ça n'avait pas été convaincant, mais c'est aussi parce que vous parliez du rugby. Le rugby déchaîne l'enthousiasme parce qu'il y a peu de matchs. L'équipe de France joue assez peu. En foot, il y a tellement de matchs par an que c'est dur de maintenir l'amour et l'attention du public. Et c'est aussi le cas pour les joueurs. Ça devient un peu la routine. Et certains, parfois, ils se disent « Bon, c'est pas le match du siècle, on va pas trop se crever, on va vite rentrer frais dans notre club. » Hier, ils ont mis les ingrédients au niveau Coupe du Monde. Ça faisait plaisir à voir.
Cerise sur le gâteau, après cette victoire prometteuse de la nouvelle génération française, on a rendu également hommage au Stade de France, un ancien membre de la génération sortante, un champion du monde 2018, entre autres, et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un certain Olivier Giroud, salué donc par ses fans, salué également via une vidéo par ses coéquipiers, ses ex-coéquipiers désormais.
Salut mon Olivier, j'espère que tu vas bien. C'était un plaisir de pouvoir jouer avec toi. Bravo pour ta carrière dans l'équipe de France.
Un joueur d'équipe qui a le don de soi, qui sacrifie toujours pour l'équipe, qui est souvent là qu'on a besoin de lui. Renard de surface, jeu de tête, reprise de volée, grand finisseur, grand numéro 9.
Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et je pense qu'il mérite tous les hommages qu'il a reçus et qu'il va recevoir. Donc big up Olive et j'espère le croiser après l'échauffement.
Original Giroud. Fier Girato Giroud. Fier Girato Giroud.
Dominique Sévrac, Giroud, l'hommage mérité, le mot est faible.
Oui, c'est un formidable partenaire, un coéquipier, quoi. C'est un gars qui se sacrifie pour le collectif.
Meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
Il a traversé la Coupe du Monde 2018 sans marquer, mais qu'est-ce qu'il a été utile? Il a quand même fait des passes décisives.
Et Guivarc à l'époque.
Oui, voilà.
N'est-ce pas?
Bien sûr.
C'était la même chose.
Donc, mais lui au moins, il reste déjà dans l'histoire avec ce nombre de buts. Que Kylian Mbappé se refuse pour l'instant à attraper, puisqu'il reste sur 7 matchs sans marquer Mbappé. Mais non, il finira par un jour dépasser Giroud au compteur du nombre de buts. Mais oui, il a marqué de son empreinte. Puis surtout, c'est vraiment un formidable joueur collectif.
Et vous sentez que ce soit l'hommage qu'il a reçu du public ou les hommages qu'on a entendus de ses coéquipiers, il y a quelque chose d'un peu spécial, de vraiment sincère autour des services rendus par un Olivier Giroud, pas toujours le plus populaire auprès des puristes, des supporters. Évidemment, il a œuvré dans l'ombre, avec l'ombre plutôt, de Benzema, dont l'histoire a été beaucoup plus difficile.
En termes de talent pur, Hugo, on va pas se mentir, il y en a un qui est donc devenu Ballon d'Or et l'autre qui, par la nature, ne le fera jamais. Parce que c'est pas le même logiciel, c'est pas le même moule, mais dans le foot.
Mais en équipe de France, c'est incontestablement Giroud, le numéro 1, devant Benzema.
Et puis dans le foot, il y a plusieurs profils. C'est-à-dire que pour qu'il y ait Didier Deschamps, c'était pas un beau milieu récupérateur, mais Didier Deschamps, c'était un formidable capitaine. Il était champion du monde 98, champion du monde 2018. Voilà, il faut tous les profils. On peut pas avoir que des artistes, on peut pas avoir que des porteurs de haut. Donc c'est un mélange des deux. Et Giroud, lui, c'est surtout pour moi le garçon qui se sacrifie pour le collectif dans tous les domaines, qui défendait comme un chien. Donc oui, je pense que l'hommage était sincère. Ouais, les gens l'adorent. Le stade était vraiment content.
C'est un profil qui existe peu dans l'effectif actuel de l'équipe de France. Ce profil de planche, de joueur qui peut jouer à la fois seul en pointe parce qu'il est costaud, mais aussi en déviation ou dos au but.
C'est même un type de neuf qui disparaît au niveau du foot international.
Mais critiqué, pas comme ça, mais il s'en rapproche
c'était,
un peu.
C'était bien de l'avoir justement pour ça, parce que ça donnait une singularité à l'effectif de l'équipe de France. On voit un peu ça avec Colomouani, mais en nettement moins bon. Il y a moins de dextérité et de qualité de pied chez Colomouani qu'il y en avait chez Giroud, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord et j'avoue, c'est quelqu'un auquel je n'ai jamais parlé, mais j'aimerais bien savoir comment il a vécu tout ça, le fait qu'il ait été dans cette adversité par rapport à Benzema. Voilà, il y avait deux camps, il y avait les pros Benzema, donc qui étaient les anti Giroud.
C'était un peu le talent pur, le joueur esthète, Benzema contre le besogneux moins spectaculaire.
Voilà, besogneux, mais tellement utile pour les raisons que vous avez évoquées.
Ouais, mais ça restait un bon joueur.
Oui.
Faut pas trop caricaturer le côté.
Non, mais c'est pas nous qui avons caricaturé.
Non, mais tu vois, ça a été ça longtemps.
Mais ce qui est beau, les réseaux sociaux et les commentaires sur le foot peuvent.
Ce qu'ils ont chez lui, c'est qu'il s'en est toujours sorti parce qu'il avait un mental incroyable et qu'il retournait toutes les situations, en fait. Quand le public ne le voulait pas, mais quand Didier Deschamps ne voulait pas, chaque fois, il a retourné la situation. Il s'est rendu indispensable au bleu.
Après,
donc ça, c'est très, très fort.
C'est un peu le Drogba français d'une certaine manière, c'est-à-dire une carrière au niveau qui débute très tard et qui se poursuit assez longtemps.
Les deux auraient pu jouer ensemble avec d'autres sélectionneurs.
Allez, Deschamps, vous aurez le temps de faire son procès. Vous inquiétez pas, Patrick Juillard, c'est pour bientôt. Avant de se quitter, on va parler des autres quarts de finale retour de cette Ligue des Nations qui n'est certes pas la compétition la plus aimée, mais elle sait être spectaculaire. Hier, quel feu d'artifice, mesdames et messieurs.
Battu à l'aller au Danemark et largement dominé dans ce match à Copenhague, les Portugais doivent absolument renverser les Danois ce soir à la maison.
Bruno Fernandes qui peut armer une frappe sur le poteau et derrière en angle fermé, la rage de Cristiano Ronaldo.
L'extérieur du pied, le 1-2 avec Diogo Jota et le cinquième but, 5-2 au bout de la prolongation face au Danemark.
L'Espagne, championne d'Europe et tenant du titre de la Ligue des Nations, accueille les Pays-Bas. Dos à l'angle, Xavi Simons, le ballon qui circule à l'entrée de la surface de réparation. C'est complètement dingue. Les Pays-Bas qui recollent à deux partout.
Les Pays-Bas qui ne voient pas le ballon. L'Espagne à l'attaque, Lamine Yamal lancé, Lamine Yamal la frappe.
C'est la pépite qui éclot aux yeux du monde. L'Espagne ira en Final Four et l'Espagne ira en Allemagne pour disputer et défendre sa compétition.
Joshua Kimmich qui trompe Donnarumma. 1-0 pour l'Allemagne. Rüdiger, allez, bon centre avec Lenitz. Et quel envolé de la part de Donnarumma. Envie dans ce match. Et le corner derrière. Frappé vite. L'Italie n'y est pas. Et Musiala qui vient marquer 2-0 pour l'Allemagne.
Ballon pour Raspadori qui trouve Moiskin dans la surface. Moiskin qui travaille. Moiskin pour le doubler et relancer totalement l'Italie dans cette partie.
Et cette fois, il a regardé. Il va siffler la fin. Énorme prestation de l'Italie en seconde période, mais ça ne suffira pas. L'Allemagne, au forceps, se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Nations.
Que de buts. Espagne, Pays-Bas, 3 partout. Espagne qualifiée. Au tir au but, Portugal-Danemark 5-2, le Portugal qualifié après prolongation, et puis Allemagne-Italie 3-3, Allemagne qualifiée, quel spectacle. Allemagne également PO du Final Four, donc en juin les affiches, Allemagne-Portugal, France-Espagne. D'ailleurs on va écouter Cucurella, c'est le latéral de la Rora sur son prochain adversaire, à savoir l'équipe de France.
Oui, la France est un adversaire très difficile, on les a déjà affrontés en demi-finale de l'Euro. Mais nous tâcherons de faire face à cette équipe de la meilleure façon possible. Je pense que c'est toujours compliqué d'être en demi-finale, quelle que soit l'équipe que vous affrontez, c'est difficile. Maintenant, il est temps de souffler et nous nous reverrons en juin.
Cucurella, doublé par un certain Saliou Diouf, qui nous offre un sacré choc capillaire. Niveau, effectivement, ouais. Un sacré choc des contrastes au niveau capillaire. Merci à Saliou Diouf pour tout son travail. Donc, on a le tableau là, des demi-finales et des quarts de finale retour de la Ligue des Nations. Déjà, sur le fait que ça a été une avalanche de buts, c'est une compétition dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants.
Même les
Mais
joueurs,
là, on en a pris plein les mirettes.
Bah, c'est le charme des matchs à élimination directe. Hein. C'est toujours mieux qu'une poule avec des
matchs. Les quarts de
finale,
c'était une nouveauté cette saison.
Oui, ouais, mais c'est très bien. Ça donne de l'enjeu et les joueurs, bah, ils lâchent tout. Hein. Et on a vu surtout des retournements de situation spectaculaires. On a vu aussi, parce qu'il y avait beaucoup de pression et d'adrénaline, on a vu des erreurs inhabituelles comme celle de Donnarumma qui...
On va raconter. Voilà. Donc, en gros, il fait une parade magnifique, ouais. Un hommage à Buffon en 2006. Et puis derrière, on ne sait pas pourquoi il parle à l'arbitre et le corner se joue. Et
il parle à ses coéquipiers.
On ne sait pas trop, mais en tout cas, il ne regarde pas le jeu. Le corner est joué.
Il n'est pas dans son but. Et ses joueurs, sa défense n'est pas concentrée non plus. Donc, je me demande si c'est pas l'arbitre qui parle. Je pense qu'il parle à ses coéquipiers.
En tout cas, il sort de son match. L'Italie sort de son match. L'Allemagne.
Mais il tient un corner à deux.
Le but est vide et puis personne. Voilà.
C'est le but le plus bête de l'histoire.
La boulette.
Oui, mais là, on est en train d'incriminer ce gardien. Mais souvenez-vous des images. Ils sont où les défenseurs? Ils ne sont même pas placés. Tout le monde discute. En fait, c'est un truc à l'italienne.
Ah bah oui.
On est à table.
C'est
une
erreur collective.
C'est une erreur collective.
Le gardien est toujours l'ultime responsable.
Concernant les résultats, donc on a Espagne-France, Allemagne-Portugal. Est-ce que c'est un Final Four représentatif du niveau des hiérarchies du football européen, moins l'Angleterre,
Hugo, mais sinon on a ce qui se fait a priori de plus beau. Hein. Là, vous avez déjà un remake d'une demi-finale de l'Euro d'il y a un an.
France-Espagne.
Voilà, donc quasiment, voilà, ça sera à Stuttgart. Il y a un an, c'était à Munich. Encore une fois, l'Angleterre n'est pas là, elle était en finale. Oui, le Portugal, c'est quand même très très bien. Bon, il y a encore Cristiano Ronaldo.
La Belgique, elle vous manque pas, Dominique ?
Non, la Belgique, même
alors
si...
Alors, elle s'est sauvée d'une relégation en faisant sa remontada. Il y a des systèmes de relégation. Alors là, ça dépasse mes compétences, donc on va revenir au Final Four.
Il y a groupe A, B, C.
Voilà, mais... le Final Four, donc vous êtes d'accord, Franck Simon, avec Dominique, ça reflète
beau
assez
plateau,
bien.
Oui. Et gros plateau, et puis surtout, oui, beaucoup de plaisir à avoir autant de buts, des retournements de situation. Voilà, ça ressemble vraiment à de la compétition. Moi, je m'embête terriblement avec les phases de groupe. Hein.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Bon, quand on a un France-Moldavie, bon, on sait
tu sais ce qui va se passer. Priori, tu connais à peu près
la
le
France
scénario.
Devrait gagner.
Ça, c'est plutôt les groupes éliminatoires. En Ligue des Nations, justement, le principe, c'est de moins avoir des France-Moldavie, mais plutôt des équipes de niveau équivalent.
On est un peu comme en Ligue des Champions de club, c'est-à-dire que le défaut, c'est que c'est à peu près toujours les mêmes qui jouent les uns contre les autres, à une ou deux équipes près. L'avantage, c'est que le niveau, on a un niveau minimum très élevé. C'est du très haut niveau. Donc
très motivant, je pense aussi pour les joueurs, parce qu'on parlait des joueurs qui peuvent être démotivés. Là, tu as des belles affiches.
Après, moi, l'UEFA, pour moi, c'est un scandale qu'ils aient mis des prolongations et des. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté 4 matchs de Ligue des Champions. Vous savez, par exemple, que le Real Madrid et le PSG ont déjà disputé 12 matchs de Ligue des Champions. 12 matchs, c'est quand on est en demi-finale.
Normalement,
il y a un an.
Ouais.
12 matchs, c'est-à-dire que le prochain match, ça sera la finale de Ligue des Champions. Et ils rajoutent un quart de finale aller-retour avec une prolongation. Hier, il y a eu 3 prolongations, vous l'avez dit, Hugo. Donc là, je pense qu'on est quand même fin mars, début avril.
Ça fait beaucoup.
C'est que le début, donc préparez-vous, puisque après, il y aura le Final Four de cette Ligue des Nations. Après, la finale donc, de la Ligue des Champions.
Et après, il y a le Mondial des Clubs.
Et après, il y a le Mondial des Clubs.
Moi, c'est les joueurs. Je vois que Rodri, Ballon d'Or, je le vois pas de la saison parce qu'il est blessé. C'est un peu embêtant.
Ballon d'or en béquille. On va finir sur cette drôle d'image, mais on va vous remercier pour cette belle émission. Patrick Gérard, Dominique Sévrac, Franck Simon, Mathieu Degel et Saliou Diouf. Demain, le retour d'Annie Gasnier. Ça, c'est le vrai événement de la semaine. En attendant, une excellente soirée à vous toutes et à vous tous. L'écoute de RFI tout de suite, un nouveau journal.